une cigale à Paris et une cigale dans le midi.
Une cigale qui chante.
Je suis d'ailleurs en exil volontaire. En exil de l'enfance. Je viens du sud, du midi. De ce midi, rêvé, fantasmé, j'ai en mémoire des sons, l'accent, une nostalgie, des étés, enchantés par les cigales.
L'accent? Mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent, invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour les malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autre chose.
L'accent et la cigale.
Avec Ariane Scarry.
Hervé Dirosan.
Evelyne Durand.
Robert Guélidia.
Joël Jacobi.
Marie Rouanet.
Avoir l'accent, enfin. J'ai deux accents et des fois j'en ai trois. C'est-à-dire que j'ai une voix quasi sans accent, une voix avec accent et une voix mélangée. Ne pas avoir mon accent, c'est ne pas avoir la même perception de la réalité. Je suis double. Que je suis quand je redescends dans le sud, et dans ma maison, dans ma calanque, à pas vraiment avoir avec la personne qu'on connaît. J'ai tout réappris. Où tout a pris, mais je n'ai rien abandonné.
Je déteste m'écouter à la radio ou à la télévision. Je pense que c'est principalement parce que je trouve que j'ai un accent énorme et je ne le ressens pas, ce n'est pas un ressenti réel quand on parle. Bon, ils viennent de Sète, c'est très particulier à Sète aussi, hein, parce que moi, mon père est né à Sète, mon grand-père est né à Sète, c'est mon arrière-grand-père, comme beaucoup de Sétois qui est arrivé d'Italie, des alentours de Naples, à la fin du 19e siècle, quand il y a eu cette grande vague des migrés italiens, et d'ailleurs on voit le quartier haut, par exemple, à Sète, le quartier des pêcheurs traditionnels, 98% c'est des noms italiens. Hein. Et d'autre part, c'est pas la vraie Occitanie, Sète, non plus. Donc on a ici un sabir de porc qui mélange, en fait, c'est un sabir qui mélange, bien sûr, il est de base d'Occitan, mais qui mélange l'italien, bien sûr, l'espagnol, l'arabe, etc. Tout le... Et donc il y a un parler très très spécifique et qui est fait pour aller avec cet accent, en fait.
J'ai l'accent de Marseille, bien sûr, mais plutôt, dit-on, du quartier où je suis né, encore plus que de Marseille, donc de l'Estac. Et voilà, l'Estac est un quartier nord, l'extrême limite, d'ailleurs, des quartiers nord de Marseille. Après l'Estac, on sort de Marseille. Et c'est un quartier qui était, en tout cas, quand moi j'y suis né, donc en 1953, ma forte majorité ouvrière, avec un accent un peu particulier, peut-être un petit peu plus brut, un peu plus guttural que l'accent, en tout cas, marseillais, provençal, en fait. C'est un accent peut-être plus dur, plus raide. Hein. Fait que moi, j'arrive à identifier. Hein.
Moi, je suis écrivain. Il n'y a pas d'accent dans l'écriture. Il n'y a d'accent que lorsqu'on entend ma voix. Donc, mon accent, c'est celui du Midi, celui de Béziers, celui que j'ai entendu, avec lequel, certainement, j'ai été bercé dans le sein maternel.
Il y a deux choses ou deux choses. Quand je m'entends dire rose pour parler de la fleur, ou chose pour parler d'un objet, il y a quelque chose d'indécent. Moi, je dis chose et je dis rose. Ça, c'est vrai. Je crois que j'ai l'accent du Midi, il me semble que j'ai l'accent du Midi. Il y a mille nuances dans l'accent du Midi. Ils se reconnaissent les uns les autres, ceux de Arles, moi je suis de Arles, ceux de Nîmes.
Alors on faisait des turbines de bateaux, on faisait, enfin pas moi, on faisait...
Les usines
prêts à taper avec une masse sur des tôles qui ont chauffé à blanc et qu'il fallait redresser.
Il y a l'accent, il a dit les tôles.
Oui, il dit les tôles, oui, il n'est pas expert. Voilà, et j'ai essayé de perdre un peu l'accent marseillais. Je crois que je suis un petit peu arrivé.
À part les eaux.
Oui, les eaux.
Entre toute la Méditerranée, de Collioure, de Perpignan à Nice, les accents sont très différents. Donc il y a les fins de mots appuyées, ça c'est un peu la base commune, mais j'ai l'impression que les tonalités et la manière d'aller d'une syllabe sur l'autre n'est pas la même. En tout cas, moi je l'entends aisément. Et il change en fait suivant de la côte à l'intérieur, en fait, c'est ça, c'est toujours ça, hein, c'est de la côte vers les terres. Plus on va vers les terres, plus l'accent il se raffermit, il s'ancre dans le sol, et plus on va vers la côte, et plus il devient plus léger, énergique, comme donner envie de partir ou partir soi-même.
Moi j'avais l'accent du centre, puisque je suis de Marseille-Centre. L'accent du centre, c'est disons plus chantant, peut-être un peu, peut-être plus provençal. Du côté de ma mère, c'était plus provençal, ouais. Mon père avait un très joli accent marseillais, mais vraiment très joli, fait pour raconter des histoires. Donc ça, c'est ma langue de naissance, c'est ce qui me constitue, ce qui est dans mon corps, ce qui fait que je peux bouger d'une autre manière, je peux appréhender l'espace. D'une autre manière, parce qu'on appréhende l'espace d'une autre manière, que ma tessiture de voix va bouger, que je vais parler peut-être plus fort parfois, et que mon rapport à l'extérieur n'est plus du tout le même.
L'accent.
1, 2, 1. L'accent du midi.
1,
l'accent de 7. Un accent qui n'est pas...
Non, je crois pas. Enfin, évidemment, l'accent, ça fait rire les Parisiens, l'accent méridional.
Ceux de Marseille,
sûrement. Ceux de Marseille. J'ai deux accents.
7 accents. Mon accent. En va-et-vient. Au rythme des émotions, des lieux, des rencontres.
Si j'ai un accent pareil après donc 41 années passées à Paris, c'est forcément de l'ordre de la psychanalyse, c'est névrotique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis que je suis bien obligé de réfléchir aux raisons pour lesquelles j'ai gardé un accent aussi fort. Il aurait pu exister toujours, mais être en dessous, être léger, en fait il est toujours aussi fort, et encore que là ça va, mais quand je suis 2-3 semaines à Marseille, c'est bien pire. Ou bien mieux d'ailleurs, ça n'est pas le point de vue que l'on a. Bon.
J'habitais aux États-Unis, j'habitais en Espagne, j'habitais de partout, et j'ai jamais pris le rythme ni l'accent d'ailleurs, hein. Vous le remarquez.
Au fond, inconsciemment, j'ai dû penser que ça aurait été une trahison en fait, c'est-à-dire de perdre l'accent. C'est-à-dire, je n'aurais plus parlé comme mon père, pour utiliser une image, ou comme mes pères d'ailleurs, ou comme mes pères, donc comme mes amis ouvriers. Ou fils d'ouvriers en tout cas, sinon ouvriers eux-mêmes, qui sont restés dans ce quartier-là. Là, aujourd'hui, je suis tout à fait ravi d'arriver chez moi, d'ouvrir la fenêtre de ma voiture, et de crier à l'un et à l'autre, « Ça va, comment tu vas, bonjour », de l'appeler par son prénom, etc., avec le même accent qu'effectivement ils ont, eux, gardé depuis toujours, bien sûr, et moi aussi, voilà. Je suis des leurs, et ça se manifeste immédiatement à travers le premier mot, quoi. D'un bonjour, on sait que je suis marseillais, voilà. Et ça... Donc c'est une volonté, effectivement, de rester du côté de ce monde-là, puisque je ne suis pas resté dans ce monde, mais je suis resté de son côté. Donc ça a vraiment à voir avec ce qu'on appelle traditionnellement le déclassement, en fait.
Par exemple, à Arles, quand j'y reviens et que je vois mes copains de l'époque, ils me disent « Ah ben ouais, maintenant que tu travailles à la télé, que tu habites Montpellier, il faut d'ailleurs dire Montpellier, pas Montpellier, maintenant que tu habites Montpellier, que tu travailles à la télé, tu as perdu ton accent. » En revanche, quand on me propose de dire les commentaires d'un documentaire, on me dit ah, « c'est quand même un peu gênant avec ton accent du midi ». Donc, pour les uns, j'ai perdu mon accent, et pour les autres, j'en ai encore trop. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a un accent lourd et un accent léger, ou un accent soi-disant chic. En fait, il y a peut-être un accent qu'on domine et dont on joue, et un accent qui vous domine, peut-être.
Les accents du Midi ne sont pas considérés comme du folklore pagnolesque ou cyranesque, revu par les Bretons à la fin du 19e, mais trouvent leurs racines dans l'histoire nationale et ses rapports avec des pays rivaux du sud de la Méditerranée.
Quand je suis arrivé à Paris à 18 ans pour entrer à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, c'est vrai qu'on me l'a fait très largement remarquer. Alors, il y avait souvent le petit ton condescendant ou moqueur, mais c'était surtout ce qui me tuait le plus, et encore aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, ça me fait plutôt sourire, c'est tout le temps « Ah, vous nous amenez le soleil !» Et ça, c'était moi qui ne m'intéressais pas du tout au soleil quand j'avais 18 ans, j'aurais préféré amener la nuit à cette époque-là. Ça me vexait profondément.
Vous nous amenez le soleil.
Vous amenez le soleil. Vous nous amenez le soleil.
Et j'ai même essayé d'apprendre à perdre cet accent, parce que j'en avais marre d'être de côté, quoi, d'être un peu marginal. Il n'y avait que des Parisiens aux arts décoratifs. Et bon, finalement, ça n'a pas été un effort que j'ai soutenu. Et d'autre part, j'avais l'impression que ça faisait une espèce de plus, que ça démarquait, vous savez, dans l'art contemporain, ce qui est depuis la Renaissance, en fait, dans l'art, c'est celui qui apporte quelque chose de nouveau, qui peint une pomme comme personne ne la peint. Et en fait, je suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup, finalement, d'artistes qui venaient du Sud et qui avaient gardé l'accent. Par exemple, tous les artistes des années 70 de Nice, comme Klein, même Armand, à part César, qui avait gardé cet accent parce qu'il était de Marseille, c'était plutôt l'artiste contemporain type, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'accent, enfin un accent de Paris. Donc, comme j'étais vraiment dans cette histoire de particularisme, d'essayer de me détacher de tout ce qui se faisait pour essayer de trouver un positionnement nouveau, j'avais l'impression que ça en faisait partie. Donc finalement, je l'ai plutôt développé que caché. Hein, c'était presque comme une marque de fabrique.
Moi, j'ai été obligée de le perdre. Sinon, je n'aurais pas fait mon travail. Vous comprenez ? Je peux le reprendre, effectivement, dans certains films de Lady Guillaume. Pas dans tous, d'ailleurs. Et quand on parle de moi, on va toujours dire l'actrice française marseillaise. Fut un temps, ça m'énervait. Parce que pourquoi est-ce qu'il fallait, on ne dit pas l'actrice française strasbourgeoise ou l'actrice française rénoise. Donc, il y avait quelque chose qui me semblait péjoratif. Et en même temps, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je me suis dit, au fond, c'est pas ça. C'est parce que notre culture, la culture du Sud, elle est tellement forte, elle est tellement présente, et en plus, en ce moment, Marseille est en train de devenir une ville très à la mode, vous voyez, ce qui me fait toujours un peu rire. Donc voilà, moi, on me présente tout le temps comme ça, comme si je vivais avec, c'est pas faux, j'ai des cigales chez moi, mais enfin, comme si je vivais avec des cigales accrochées à moi à longueur de journée.
Il y a un truc qui est pénible avec l'accent, dans mon cas, et d'une manière générale, avec la voix, les gens qui me font l'amitié, bon, de me faire des compliments, le font tout le temps très très gentiment en disant « Ah, on aime beaucoup votre voix, votre façon de raconter, etc. » On ne me dit jamais qu'on aime bien la façon dont j'écris, par exemple. Et il me semble que mon travail, ça consiste à écrire. Parler, c'est naturel, ça ne demande aucun effort particulier.
Existe dans le sud de la France un petit village encore mal connu de nos contemporains. Pourtant, il ne manque ni de charme, ni de curiosité. Bonheur les bains, son église, son port, son bar tabac.
Quoi, de l'eau dans mon pastis? T'es le cagnard autant câblé, toi.
Eh oui, du pastis aussi. Du sentiment.
Ma René.
Mon René.
Les René. Avec eux, c'est sûr, on ne va pas s'ennuyer.
En fait, en peinture, il n'y a pas d'accent. Ouais. Mais quand j'ai fait cette série de dessins animés, qui était quand même un grand challenge, c'était 25 fois 26 minutes, j'avais fait déjà de l'animation expérimentale, où là, je suis seul face à, comme dans une peinture, seul face au matériel. Là, on passe à travers 300 ou 400 personnes, puisqu'il y a ceux qui dessinent, ceux qui font les décors, ceux qui animent, etc. Et on ne contrôle pas tout. Et on s'était beaucoup posé le problème des voix, des René dans le dessin animé. Et on avait fait des essais, mais dès que des professionnels de la télévision, de la production, parce que c'était Canal+ et Carrère qui produisaient à l'époque, ils n'arrivent pas à avoir ni des acteurs avec un vrai accent. Donc ils ont des accents dans leur voix très appuyés, très caricaturales, quoi. Ça fonctionnait pas. Ce que j'aime pas, c'est les faux accents. J'ai préféré ne pas l'avoir du tout, quoi. Puis un accent, j'ai l'impression que c'est vachement dur de refaire un accent, même pour un acteur. Un accent, c'est pas juste une sonorité, c'est presque toute la vie, tout le passé de cette personne, son ancrage, sa culture, avec un grand C, tout ça, qui repasse à travers cet accent. Donc, je pense que c'est pas possible à refaire.
Quand, par exemple, mes filles qui sont nées à Paris, qui savent parler les deux langues, je dirais, vous voyez, on s'amuse de temps en temps à parler. Et il y a une expression que j'ai apprise, puisque je l'avais oubliée, à mes filles cet été, c'est devenu une espèce de leitmotiv, et que je ne peux pas traduire en français, en fait, c'est pas compliqué, c'est « et elle, non ». Si je vous dis « et elle, non », ça ne vous dit rien. Si je mets l'accent tonique et que je le mets en situation, « et elle, non », voilà, vous comprenez. Et ce n'est qu'une histoire d'accent tonique. Pourtant, le vocabulaire, c'est le même. Hein. Mais les gens ne comprennent pas ici.
C'est l'Occitan qui nous a donné ces E muets magnifiques, sans lesquels il n'y a pas de poésie. Songez que la disparition du E muet en fin de phrase est une grande perte. Il n'y a plus de rime féminine. Une personne qui parle français, elle comptera pas belle. Moi, je dis belle, parce que c'est bello en occitan. C'est pas bello, c'est pas belle. L'accent tonique, il est avant. Et il y a une petite prolongation extrêmement musicale du E. Le E, à l'intérieur des mots, lui aussi, donne de la musicalité. Il y a plus de mélodie, si vous voulez. Des fois, je me régale de montrer aux gens que jusqu'au 17e inclus, et certainement au 18e, on joue le théâtre avec des R roulés et des E muets. Pas pour faire rigoler. Je m'amuse souvent à dire un texte grave ou beau. Je sais pas, du Ronsard, par exemple. Hein. Mamie, c'est pas mamie, c'est mamie. Levez-vous, ma belle matineuse. J'allaguais alouette au ciel jargonné et j'alle rossignol doucement fredonné sur son épine assis sa complainte amoureuse. Je me souviens, on se moquait de notre grand-tante qui disait « Tata, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»« Des nouilles !» elle nous disait. « Nouilles, c'est nouilles, le L était mouillé, comme on dit. » Et nous, on se moquait d'elle parce qu'on était des petites sottes. Hein. On n'avait pas encore compris ce qu'on parlait. Donc tout ça, ça fait une langue qui, en elle-même, se prête à la chanson, se prête à la musique des vers, en particulier des vers rimés, qui permet déjà d'avoir une sorte de mélodie.
Ah là, je pense que ceux qui ont des accents, c'est les derniers qui l'entendent.
Et non.
Ai-je l'accent de la cigale ?
J'ai l'accent qui chante, ne vous en déplaise.
L'accent du méditerranéen, le problème c'est qu'on est associé à deux choses, soit à des comiques idiots, genre Fernandel, soit à des chefs mafieux ou à des chefs de partis politiques super flippants, genre Pasqua. On a vraiment ces deux côtés qui ne donnent pas une très bonne image de ce qu'est la population ici, parce qu'elle est comme de partout.
Si vous lui faites faire la réclame du Roquefort avec l'air imbécile, vous entachez certains accents de vulgarité. En soi, il n'est ni vulgaire ni rien, c'est un accent comme un autre.
Parce que l'accent, c'est un truc... la France, en ça, est terriblement castratrice. Quand vous allez en Italie, les gens ont l'accent friulan, l'accent napolitain, l'accent romain... Mais ici, dès que vous commencez à parler avec un accent de quelque région que ce soit, vous n'êtes pas crédible. dans vos propos. Et cette chose-là, quand quelqu'un, par exemple, qui vient passer quelques jours à Paris, rentre dans une boulangerie à Paris, et qui parle avec son accent, qui dit « Bonjour madame, je voudrais une croissant », tout le monde fait « Ah, qu'est-ce que c'est frais, qu'est-ce que... » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est quelque chose, en fait, qui me met extrêmement en colère.
Mais on voit bien que parfois, il y a toujours ce foutu mépris, en fait, ce mépris de la province, qui n'est en fait que mépris déguisé de classe, bien entendu. Et effectivement, les Parisiens, d'ailleurs, les ouvriers parisiens ont été contaminés, j'allais dire, et ont le même mépris, alors que ce sont des ouvriers. Je parle de Parisiens authentiques, de gens nés ici depuis plusieurs générations, etc., et dans des milieux ouvriers que j'ai pu connaître, les parents, des amis, etc., tout ça. Ils ont aussi quand même intégré le sentiment de supériorité dans la centralité. Voilà. Ils sont parisiens, donc effectivement, c'est quand même pas pareil que être toulousain, marseillais ou lillois.
Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue.
Jean-Louis Trintignant, vous aviez vraiment cet accent-là au sortir de l'adolescence ?
Oui, je l'ai eu longtemps.
Notre accent est souvent assimilé à mauvais goût. Alors que c'est vraiment une erreur fondamentale. Si on écoute les enregistrements de Jean Giono, par exemple, il a un accent absolument sublime. Et il est d'une élégance dingo. Mais tel que la publicité, les médias, l'image qui est renvoyée, est souvent l'image de quelqu'un pas très sérieux, pas très élégant, on ne peut pas tellement le prendre en compte. Ses propos ne sont pas si importants que ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous apprenez à parler avec l'accent pointu, comme on dit dans le Sud.
Souvent les mecs du Sud, c'est souvent les galeristes du Sud à qui on ne fait pas trop confiance. Mais bon, c'est tout le temps une caricaturale, quoi. Mais en même temps aussi, quelqu'un qui a un accent du Sud et qui parle sans dire trop de conneries, tout de suite, il paraît plus intelligent. Parce que les gens, ils attendent tellement qu'on soit idiot, avec l'accent que nous avons. Ils attendent tellement qu'on soit idiot que dès qu'on dit deux, trois trucs un peu sensés, tout de suite, je l'ai remarqué, ça. Tout de suite, ils sont à l'écoute parce qu'ils se disent, ils sont surpris, quoi. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à Paris, les gens, ils aiment bien venir être avec nous ou venir chez nous, etc., pour s'amuser, en vacances, etc. Mais pour le travail, ils ont moins confiance. En fait, on s'attache qu'au lieu commun, finalement. Cet accent-là est soit associé à des gens pas très vaillants, ou associé aux vacances, voilà. Mais pas forcément associé à la réflexion, à la création, à l'intelligence et tout ça. Ça, on a encore du travail. On a encore beaucoup de travail.
Ai-je l'accent de la cigale ? Ces cigales, je les ai entendues dans le ventre de ma mère. Elles m'ont bercée durant les longues siestes, dans la chaleur de l'été. Elles m'ont fascinée durant mon enfance. Je les ai traquées sous le sol pleureur familial, dans leur chrysalide. Je les ai vues sortir, vertes et chiffonnées. Je les ai faites sécher au soleil, sur mes fenêtres. On dit même que j'en aurais mangé.
C'est vraiment chez les Grecs, je crois que la cigale a été la plus, les Grecs anciens, hein, la plus adorée, la plus aimée. Mettaient des cigales dans des petites cages en osier pour écouter leur chant, etc. Les manger même, ça c'est autre chose. Mais la cigale a chez les Grecs un aspect un petit peu sacré, un peu surnaturel. Elle a une parenté avec les dieux, et en particulier avec Apollon et avec les muses. Tout simplement parce qu'Apollon est le dieu de la musique, du chant, des arts. de la poésie, etc., de la lumière aussi. Et la cigale correspond à ces attributions du dieu Apollon. On entend parler d'une lyre qui a des ailes. C'est le côté chant ou musique, on dit l'insecte chanteur ou l'insecte musicien, dont le chant, justement, n'apparaît qu'avec la lumière, qu'avec la chaleur, avec le soleil. Platon raconte dans une de ses œuvres, Phèdre, la naissance des cigales.
Voici la légende. Jadis, les cigales étaient des hommes, de ceux qui existaient avant la naissance des muses. Puis, quand les muses furent nées et qu'on eut la révélation du chant, il y en eut alors, parmi les hommes de ce temps, qui furent à ce point mis par le plaisir hors d'eux-mêmes que de chanter leur fit au maître de manger et de boire, et qu'ils trépassèrent sans eux-mêmes s'en douter. Ce sont eux qui, à la suite de cela, ont été la souche de la gent cigale. Elle a des muses reçu le privilège de n'avoir, une fois née, aucun besoin de se nourrir et de se mettre, cependant, estomac vide et gosier sec, tout de suite à chanter jusqu'à l'heure du trépas, et puis après, d'aller trouver les muses pour leur rapporter qui les honneur ici-bas et à laquelle d'entre elles va cet hommage. Ainsi, Aerato, c'est sur les hommes dont les matières d'amour sont l'occupation. À l'aîné, Calliope, et à sa cadette, Uranie, ceux qu'elle signale, ce sont les hommes qui passent leur vie à philosopher et qui honorent la musique propre à ces deux muses. Car, entre toutes, avec le ciel pour principal objet, les questions de l'ordre divin aussi bien qu'humain, ce sont elles qui font entendre les plus beaux accents. Nous avons donc, tu vois, mille raisons de parler et de ne pas nous endormir à l'heure de midi.
L'adulte mâle, donc, puisque c'est le seul qui chante, a un appareil très sophistiqué qui lui permet de produire ce que nous appelons un chant et que les entomologistes appellent cymbalisation. Donc ce chant est fait pour appeler les femelles, pour signaler aux femelles qu'il y a là un beau mâle qui les attend. Donc Ésope a écrit peut-être 4 ou 5 fables dans lesquelles intervient la cigale. Il y en a une où il est question d'un âne qui est très admiratif. Là, on voit le côté aussi ambivalent du côté symbolique de la cigale. Lui, il est admiratif. La fouette est excédée. Elle ne peut pas dormir à cause du chant d'une cigale qui refuse d'arrêter, malgré que la chouette se plaigne, etc. On peut rapprocher ça. Les Romains étaient en général excédés, alors que les Grecs aimaient beaucoup le chant des cigales. Donc l'âne, très admiratif des capacités de chanteuse de la cigale, pense que ça vient du régime alimentaire de la cigale. Donc il demande de quoi elle se nourrit, et quand il apprend qu'elle se nourrit de rosée, bon, il imite. Et bien sûr, en se nourrissant de rosée, il finit assez rapidement par mourir.
Fait l'aller-retour en moto pour aller de Paris à Marseille et j'aimais beaucoup effectivement l'été. Je me disais que j'étais dans le sud à partir du moment où j'entendais des cigales, quoi. C'était souvent C'est après Valence. Hein. Voilà. Déjà, à Valence, ça n'est pas fort. Je n'étais pas encore arrivé chez moi.
Quand j'étais môme, la première cigale que j'entendais, c'était le début de vacances. C'était la fin de l'école. Et pourtant, des fois, on l'entendait, j'allais encore à l'école. Mais c'était la liberté, d'un coup, ça changeait. Mais dès que les cigales arrivent, ça veut dire que ça va exploser, quoi. Enfin, il y a comme une espèce d'explosion de vie.
Ça reste effectivement un son de l'été. Pour moi, d'ailleurs, les cigales sont très assimilées, en plus, à des moments où on les écoute. Et un des moments où moi j'écoute les cigales, c'est après le repas du midi. C'est-à-dire si jamais, effectivement, on se met à se reposer, à prendre un thé, ou même à lire un livre, à faire une espèce de sieste, à moitié endormi, etc., avec les volets à demi fermés. C'est là où je préfère, d'ailleurs, les cigales, à ce moment-là. Ça indique tellement de la chaleur dehors, une fraîcheur à l'intérieur, beaucoup de lumière dehors, beaucoup d'ombre à l'intérieur. Fait tout ce contraste-là, quoi. C'est une sensualité, je trouve, extrême, quoi.
Et puis, ces ailes, quoi. Les ailes des cigales, c'est quand même de l'art. C'est comme des vitraux, je sais pas comment dire. Et puis c'est fragile, faut y faire attention. Et en même temps, c'est une des premières choses que les grands-pères, souvent ce sont les grands-pères, que les grands-pères montrent à leurs petits-enfants, comment faire chanter une cigale en lui grattant le ventre. C'est des gestes comme ça, c'est des reproductions. C'est un petit enfant émerveillé qui voit un grand-père attraper une cigale quand il y arrive, quand il se casse pas la gueule, parce que c'est pas si évident que ça à attraper. Donc c'est le mythe du grand-père qui fait chanter la cigale. Les cigales, c'est les souvenirs d'enfance pour les gens qui sont nés dans cette région-là.
Le 9 juillet, il y a un type qui s'est fait tuer par un taureau dans les arènes à Teruel. Et le lendemain, le 10 juillet, dans toutes les arènes du monde, les toreros et le public, tout le monde a observé une minute de silence pour rendre hommage à ce type qui s'était fait descendre par un taureau. Moi, j'ai tourné à Tarascon. Il se trouve que les arènes de Tarascon, elles sont à l'ombre, de platanes, elle a aussi des platanes, comme dans les cartes postales où il y a des platanes. Et le paseo s'est arrêté, la musique s'est arrêtée, le silence s'est fait. Et en fait, de silence, c'était les hurlements des cigales. Les cigales peuvent rendre un son littéralement tragique.
Dans ma bande de son, chez une sonothèque privée d'ailleurs, je suis évidemment spécialiste des cigales, hein, parce que j'en ai de toutes les natures, de toutes les couleurs, des grandes, des petites, des irritantes, des calmes, des douces, etc. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un arsenal. Parce que depuis mon premier film, j'ai été obligé d'en utiliser. Je dis bien j'ai été obligé, parce qu'en son direct, il y a forcément des cigales dans tout son que l'on fait à Marseille, même effectivement en milieu urbain. Des cigales au cinéma, c'est très 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 emmerdant, hein. Parce que d'abord, ça change de fréquence en permanence. Donc, on a l'impression, alors même qu'on est sur un plan séquence, il y a des faux raccords. Donc, le son n'est pas bon. Voilà, parce que le son saute, change de niveau, etc. Bon. Alors, c'est terrible, parce que le seul moyen pour éviter ça, c'est d'en rajouter. Et donc, on rajoute de la cigale sur de la cigale pour que les cigales soient unifiées. C'est presque un programme. Et donc, il y en a de plus en plus. Du coup, c'est pas beau non plus. Enfin, c'est une casse-tête. Donc, on fait tout pour éviter les cigales sur les tournages. J'ai fait un film entier, il doit s'en souvenir, avec un assistant qui a passé, je crois, la moitié du film dans un arbre où il montait tous les matins avec une lance d'incendie qu'on avait négociée avec les pompiers sur une prise d'incendie. Et avant chaque prise, il noyait complètement cet arbre-là. évidemment, dès qu'on disait moteur, il coupait pour qu'il n'y ait pas le bruit de l'eau. Les cicales s'arrêtaient, bon, mettons, 2-3 minutes, le temps de la prise d'ailleurs, et elles reprenaient allègrement. Voilà.
Et quand les cigales chantent et que d'un coup elles s'arrêtent toutes ensemble, c'est qu'il y a tarpé, quoi. Il va se passer un truc. Ça, c'est génial. C'est aussi comme des annonciatrices, quoi. C'est toujours étonnant comment elles s'arrêtent.
Telle la cigale, je mue au gré de mes allers-retours. À midi, en bas, dans le midi, il est l'heure de dîner. En haut, l'heure de déjeuner. Le soir, en bas, on soupe. Et en haut, on dîne.
Bon, les cigales pondent dans les branches, dans un rameau ou dans une herbe grosse sèche, si vous voulez, et elles déposent ses œufs à l'intérieur de ce rameau ou de l'écorce de la branche, etc. Les œufs incubent pendant plusieurs semaines. Ensuite apparaît une minuscule larve. Il n'y a pas encore de pattes qui rompent à la lisière du végétal dans lequel elle vivait. Et elle se transforme pour la première fois en toute petite cigale. Il y avait des petites de 1 millimètre et demi, avec des petites pattes. Et elle se laisse tomber, elle s'en perd. Donc là, elle disparaît pour plusieurs années. Pendant ces années, elle va avoir encore 4 mues. Et vivre tout le temps dans l'obscurité et se nourrir de la sève, des petites racines, ce qu'elle va trouver sous la terre. Et le moment venu, elle creuse son trou et elle sort. À ce moment-là, donc, la larve grimpe sur un végétal et là, on voit sortir la cigale adulte très très lentement, de couleur verte, très molle, et elle est strictement incapable de voler. S'il y a un peu de vent, on voit les ailes flotter. En 3 heures, elle durcit, en même temps, elle change de couleur. La cigale va se confondre, elle se camoufle en fait, elle a une tenue de camouflage parfaite, ce qui entre aussi dans sa dimension symbolique, parce qu'on la cherche, elle fait beaucoup de bruit, mais sa présence sonore est aussi forte que sa discrétion au niveau visuel.
Maman, faut que je dise quelque chose d'important.
Tu m'inquiètes.
Oui, je sais. Ça va te faire de la peine.
Tu vas te marier.
Maman.
Tu es enceinte.
Maman.
Vas-y, parle. Tu m'as jamais fait de peine, alors parle, vas-y.
Je vais partir.
Comment tu vas partir? Tu vas bien à la maison?
Maman. Je fais mes études à Paris.
À Paris? Non mais tu es folle, hein? Tu as vu ce qui se passe à Paris?
Tout. Il se passe tout à Paris. Le théâtre, le cinéma.
Tu vas à Paris pour faire la fête?
Mais non, je veux faire l'école de journalisme. Où tu veux que j'aille à part Paris? Et puis c'est pas la Chine. On met même pas 4 heures en TGV.
Et tu vas habiter où à Paris?
Prendre une chambre à deux avec Rose.
La première chose que je me rappelle à Paris, c'est ma peur. J'ai très très peur. J'étais jeune fille au pair, dans le 7e arrondissement, à école militaire. C'était, je sais pas comment vous dire, la Sibérie pour moi. J'étais complètement expatriée, je comprenais rien. Je comprenais pas la manière de fonctionner des gens. La concierge me faisait peur. Je suis assez vite rendu compte que mon rythme de parole, ça ne collait pas. J'étais étudiante à la Sorbonne et en fait, je ne parlais pas. À l'extérieur, je ne parlais pas. Je parlais avec les gens chez qui j'étais jeune fille au pair, qui étaient des gens très très gentils. Mais en dehors de la maison, je parlais fort peu. Parce que j'avais peur.
Et ton amoureux, il va monter à Paris l'année prochaine?
Non.
Et comment vous allez faire alors?
On n'est pas mariés.
Je pense pas que ça va durer longtemps avec 845 km de distance.
Je t'ai pas dit que je voulais faire ma vie avec lui.
Ouh. Excusez-moi.
Mais qu'est-ce que tu veux aller faire à Paris?
Journaliste.
Ah, bah c'est bien ça.
Pas pour maman.
Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était loin. J'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit c'est loin. C'est tout ce que j'ai dit. C'est loin.
Ah, il en faut des journalistes issus de notre milieu. Sinon, ils parlent jamais de nous. Ou alors de Traviole.
Merci, Caroline.
De rien, ma petite. Tu nous oublies pas, c'est tout.
J'ai le droit de dire que je trouve que Paris, c'est loin. C'est quand même mon droit de dire que c'est un peu loin. C'est quand même pas moi qui ai tracé la carte de France, sinon j'aurais mis Paris à la place d'Aix-en-Provence. Hein.
Et remarque que ça nous aurait permis d'éliminer Aix une bonne fois pour toutes.
Paris, pour moi, a d'abord été de la peur. De la peur parce que je sentais bien que j'étais inadaptée, qu'il fallait que j'apprenne des comportements et aussi des manières de s'exprimer. Bon, perdre l'accent n'a pas été très difficile. C'était pas ça mais des fois, si vous voulez, c'était pas une histoire d'accent, c'était d'un coup aussi, hop, ça montait dans ma voix parce que d'un coup, il y avait quelque chose d'enthousiasmant où les gens me disaient, mais pourquoi tu cries comme ça? Et je crie pas. Je me dis, bah si, tu cries. Et là, d'un coup, chaque fois, ça me renvoyait à mon identité. Et je me disais, mais... Alors, tais-toi. J'ai appris à exprimer les choses en faisant, ah, super. Vous voyez? Alors que c'était pas du tout naturel chez moi, ça.
Oh. En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. -10, -20, -20, -30. Tu dis, je reste couché, il te fout du -40, tu vois?
-40?
C'est le Nord.
C'est vrai que j'avais qu'une envie quand j'avais 18 ans, c'était partir d'ici, je me sentais prisonnier. On était avant la décentralisation, donc on n'avait pas tous les musées qu'il y a, il n'y avait pas du tout les structures culturelles. Je ne me sentais pas du tout pareil que les autres, je me sentais un peu décalé déjà. On était loin de tout, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, il fallait une nuit de train pour aller à Paris. C'était un port, on voyait les bateaux arriver, partir, etc. Et jamais moi je partais en fait. Parce qu'on est rarement parti en vacances avec mes parents et tout ça qui était d'origine modeste. Et puis comme mon père il me disait, on n'a pas besoin de partir en vacances, à 7 il y a tout, il y a la mer et la montagne. Pour lui, le Mont Saint-Clair, c'était la montagne.
Quand je suis arrivé à Paris, l'accent, pour moi, était un sujet de querelle, en fait, permanente. Quoi. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, je grondais quelqu'un qui me reprenait sur cet accent. Quoi. J'étais plus jeune. C'est vrai que j'avais un peu de mal à supporter. Alors, c'était plus ou moins amical, c'était plus ou moins même bagarreur. Je m'énervais tout de suite. Quoi. Je suis prêt à me battre quasiment encore. Je me suis calmé un peu depuis. Mais encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir une réplique assez acide ou sur quelqu'un qui m'imite, par exemple.
Une fois, je mangeais avec la grande spécialiste d'Égyptiens. Nous étions dans un restaurant très chic et nous mangeons. On était 4 par table et on nous sert des côtelettes. Et cette dame en face de moi dit, oh, à quoi sont-elles parfumées, ces côtelettes? Moi, je ne vais pas me moquer d'elle en faisant son accent. Oh, alors je le goûte, je lui dis, je crois que c'est du thym. Et tout d'un coup, elle reprend ma phrase, je crois que c'est du thym. J'ai dit, madame, j'espère que j'ai l'air moins bête quand je parle que vous, quand vous m'imitez. Parce que là, franchement, je lui ai dit, vous ne brillez pas par votre finesse, ni rien. Enfin, je l'ai prise très sec. Ah, mais quand même, je ne vous permets pas. Je lui ai dit, si, c'est profondément, comment dire, impoli, quand on est chez des gens qui ont un accent, de se mettre à rigoler en les refaisant. Et alors, nous sommes disputés. Alors, les organisateurs sont venus mettre un petit peu de... Mais on se régale de vous entendre. J'ai dit, moi, une langue, c'est pas fait forcément pour se régaler. Ça dit ce que ça a à dire. Si elle a à dire qu'elle est en colère, elle est en colère. Si elle a à dire qu'elle aime, elle aime. Si elle a à dire qu'elle a peur, elle dit toujours. Elle dit son angoisse, elle dit tout. Une langue dit tout. Elle n'est pas faite pour dire uniquement des couillonnades, qui font rire les vacanciers. Cette fois-là, là, je veux dire, j'ai failli vraiment lui donner un soufflet, un truc de... on va essayer, on va se battre sur le prévenu un peu, on va essayer de joute quelconque, physique ou oratoire.
Je pense à une année que j'ai passée à Paris, où j'ai vécu à Paris. Bon, j'étais jeune, j'avais 23 ans. J'ai eu vraiment du mal parce que j'étais déjà une jeune femme très assez complexée, etc. Et je ne supportais plus. J'avais le sentiment qu'on n'écoutait pas ce que je disais, mais qu'on écoutait mon accent. Et on répétait, en général très mal d'ailleurs, on imitait l'accent que j'avais très mal. Mais du coup, il y avait des moments où je n'osais plus parler.
L'accent.
Un accent.
Et le son des grillons qui surgit dans la nuit quand l'été en pente douce se refroidit. Je me souviens qu'enfant, quand je l'ai capturé et enfermé dans une boîte, il réveillait dans un mécontentement général la maison profondément endormie.
En fait, ça vieillissant comme mon attachement à cette, c'est pas un attachement de cœur, mais vraiment l'idée que cette dégage, c'est qu'on a une grande culture savante, parce qu'il y a beaucoup de grands artistes, de grands écrivains, ça, qui sont originaires d'ici. Et en même temps, c'est un endroit très populaire. C'est un endroit, par exemple, où la bourgeoisie est en nombre réduit. Dans la rue, on le sent, on est à côté de Jean Villard ou de Soulages, et en même temps, on est à côté de la macaronade, des joutes, enfin de tout ce salmigondis d'Espagnol, d'Italien, de d'Afrique du Nord et tout ça qui, bon, moi, qui me passionne. Et comme je vous dis, j'ai toujours du plaisir à venir ici puisque j'ai ce projet qui est très important pour moi, le Musée international des arts modestes, et qui est vraiment lié à ce dialogue entre les cultures savantes et les cultures populaires. Vraiment, c'est la ville où cette expérience, ce laboratoire a du sens. Donc, j'ai pas ce truc d'exil. Ça, j'ai jamais eu. Je fais partie d'une communauté, mais c'est récent en fait, c'est récent.
Moi, je suis totalement en exil. J'ai toujours été en exil. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Oui, je suis exilée. Je suis exilée et en plus, je suis doublement exilée moi, parce que je suis exilée géographiquement, mais je suis exilée socialement. Je ne viens pas du monde qui est, disons, le monde le plus majoritairement le plus important dans mon métier. Je viens d'un monde populaire, très populaire. Donc, j'ai deux exils.
Je ne suis pas chez moi à Paris. Après 40 ans, je ne suis pas chez moi. Voilà. Évidemment, je suis pas. Il y a des gens qui sont exilés beaucoup plus loin que ça et pour des raisons beaucoup plus graves. Moi, c'est un exil choisi. On ne m'a pas obligé à être à Paris. Donc, c'est pour ça que je mets quand même des guillemets. Quoi. Je ne souffre pas comme peuvent souffrir tous les exilés du monde entier qui sont exilés, eux, pour des raisons politiques ou économiques, bien sûr. Mais il y a quelque chose de non-intégration à Paris, d'ailleurs, de mon point de vue. Je continue à avoir une espèce de rapport touristique à Paris. Enfin, et de travail, bien sûr. Donc, bien sûr que j'ai des relations, bien sûr que des habitudes, des trajets, des parcours, enfin, toutes ces pratiques qui font que l'on est de quelque part. Mais vraiment, je ne me sens pas chez moi. Et bien sûr, dès que je passe après Avignon, je dis, tiens, j'entre dans mon domaine, en fait, voilà. Et c'est vrai que je respire différemment, je regarde les choses différemment, j'entends d'autres sons, etc., etc. Et je me sens mieux, je me sens rassuré, je me sens dans une familiarité, dans une espèce de, qui est probablement liée à la réminiscence, à des choses qui ont à voir évidemment avec l'enfance, avec les premières impressions que l'on a eues lorsqu'on est né.
Ça fait très très longtemps que je vis à Paris, j'ai vécu plus longtemps à Paris qu'à Marseille. Mais je ne me suis jamais habituée. C'est incroyable, mais je ne me suis jamais habituée. Il y a certains jours où c'est pas la bonne lumière, quoi. Vous voyez, c'est pas la bonne lumière, ce sont pas les bons bruits. Ce ne sont pas les bons sons. Je suis fatiguée du tempéré, moi. En fait, je n'aime pas le tempéré, mais pas du tout, vous voyez. Je n'aime pas ça, quoi. Tout le monde se parle comme ça, tranquillement. On claque pas les portes, les fenêtres, tout est super, super. Voilà, on écoute la musique comme ça. Voilà. Moi, non, j'écoute la musique à donf. Quand j'ai envie d'écouter de la musique, je claque les portes. Je sais le faire, hein, tout ce que j'ai dit précédemment. Je sais le faire, j'ai appris à le faire. Mais quand je suis seule chez moi, je ne fais pas du tout, quoi.
En fait, il y a beaucoup de sons qui me manquent ici, mais bien sûr que les principaux, évidemment, c'est le Mistral, bien entendu les cigales et les griots. J'aime faible pour les griots d'ailleurs, plutôt que pour les cigales. Probablement aussi, mais ça c'est tout le rapport que j'ai à la mer, au monde des quais, aux gens qui travaillent sur les quais, etc. Tout ça, les cornes des bateaux qui entrent, qui sortent, etc. du port, enfin, des choses comme ça.
Là, quand je suis dans cette pièce qui est fraîche, et que dehors il y a la canicule, quand parfois j'accompagnais mes enfants, malgré la canicule, on montait la colline, on traversait là à pied, je partais pêcher avec eux dans le Dourdou, de l'autre côté de cette montagne là, qui est assez haute, ce chemin avec ces cailloux blancs qui sortaient comme les eaux de la terre, ce qui te tombe vertical sur la tête, et que tu supportes parce que tu vas avoir l'ombre d'un arbre, le bruit de la rivière et l'eau de la rivière.
Et puis oui, bien sûr, c'est ce que je retrouve à Lisbonne, depuis que j'y habite là pour faire ce projet de céramique. On est très attaché au bruit de port, aux entrées de bateaux. Bon, il y avait des grues aussi avant, il y avait des bruits formidables de grues qu'il n'y a plus. Et puis aussi, il y avait ces marins aussi qui venaient, ces échanges de langues et tout ça. Ça faisait rêver quand il y avait les bateaux américains. C'était quand même un rêve quand on est enfant, quoi, hein, d'ailleurs. Et puis l'été, les pompiers qui vont à la plage pour sauver les noyés, tout ça, souvent on dit « Ah, il y a un noyé !» Voilà, c'est ça. Et puis, ça, c'est les sons de côté de la mer. Et puis, cette, c'est aussi le côté de l'étang, aussi. Et ça, c'est important, ce côté de l'étang, avec ses suintements, ses bruits d'oiseaux, d'insectes et tout ça. Et ce que j'adorais quand j'avais un atelier au bord de l'étang, là, quand je suis revenu habiter à Sète entre 86 et 93, c'était le sifflet des martinets. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours rêver, quoi. Donc, on les entend au printemps, ça veut dire que l'été arrive. Et aussi les bruits des ailes, quand toutes les étourneaux, à la rentrée, là, en septembre, sont en groupe, là, quand ils décollent comme ça, et que c'est des milliers de petits points. On entend ces bruits étouffés d'ailes. Ça, c'est très beau aussi. Et moi, c'est un bruit qui me fascine, c'est comme une envolée, comme ça, de milliers d'êtres. À Sète, il y a aussi ce truc. Un truc qui m'énervait, mais bon, qu'on faisait quand on était jeune aussi, c'était le bruit des mobilettes. Aujourd'hui, ça m'irrite. Et surtout quand j'habitais au quartier haut, il y avait tous les jeunes qui trafiquaient leurs mobilettes, tout ça. C'était vraiment un bruit très fort de mon enfance, ça. Très, très fort.
Le midi, c'est l'endroit où j'ai envie de vivre, malgré toutes les horreurs de ce midi. Parce que quand vous vous promenez dans une ville du midi, par exemple, si vous vous promenez à Beaucaire, c'est délicieux. À Arles, c'est sublime. À Marseille, c'est extraordinaire. À Nice, c'est magique. Dans les Alberts, il faut quand même que vous vous disiez que les résultats des élections font que chaque fois que vous croisez 10 personnes, il y en a 4, 5 ou 6 qui vous vendraient pour un morceau de beurre. Mais bon.
Et en fait, c'est quand même un endroit où on a su, j'espère qu'on va encore y arriver, ça devient compliqué, hein. On a su vivre en communauté, que des communautés différentes se croisent et s'absorbent que les unes les autres et qu'on arrive à vivre ensemble. Et que je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait plus.
Le passé est un autre pays. On y fait les choses différemment. Je suis d'ailleurs, mais plus tout à fait d'ailleurs. Je vis ici, mais je ne suis pas d'ici. en exil, de l'enfance.
Parce qu'en plus, la langue, elle bouge pendant que vous partez. Les choses bougent, les comportements bougent. Donc après, quand vous rentrez, il faut que vous vous réadaptiez. Donc ce qui fait que quand on revient, on est... ben oui, on est entre les deux. On est juste entre les deux. Moi, je pense, pour ce qui me concerne, je vais rester entre les deux autant que je tiens. Et un jour, je ne tiendrai plus, je le sais. Et ce jour-là, je descendrai. Je rentrerai chez moi. Parce que chez moi, c'est en bas. Chez moi, c'est quand je m'assieds sur un rocher blanc, que je regarde la mer bleue, et que derrière, il y a des pins verts. Voilà, là, ça, c'est chez moi. Et j'ai toujours dit que quand je serai vieille, entre 3h et 5h, je descendrai me mettre sur le banc et je regarderai passer les jars. Ça, j'ai toujours dit ça depuis que je suis môme. Et c'est vrai que je pense que je le ferai. Parce que c'est tellement génial. C'est mieux qu'aller au cinéma. Et regarde comme elle est habillée, elle. C'est son mari, tu crois? Non, c'est pas son mari, non, non. Mais je dis, attends, c'est son fils. Arrête-toi, c'est pas son fils. Je pense que je ferai ça. Enfin, j'ai une amie avec qui on a décidé de faire ça.
Crickets on the left, crickets on the right. Crickets just singing with me all the night. What can I do? They're too much competition, but I love him. Oh yes, I love him. What do I do? What do I say? I don't care anyway, 'cause they made this a happy night for me. So sing on, crickets, as long as they sing. We know it's a happy thing, 'cause when they stop, that bop is over for me, over for me. So sing on, crickets, sing for me. Come on, crickets, sing with me. I don't care, I'm going on vacation now. You can sing anyway, anyhow, yeah. Oh, it's crickets. Yes, those crickets, they sing and they swing with me, they keep waiting.
L'accent et la cigale, par Nathalie Sall. Composition originale, Diego Lossa. Prise de son et mixage multicanal, Guillaume Ledu. Un grand merci à Ariane Ascaride, Evelyne Duret, Hervé Di Rosa, Robert Guédiguian, Joël Jacobi et Marie Rouanet. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Amélie Briand-Lejeune. Coordination, Inès De Bruyne, Irène Omélianenko. Création en air, 2016.